Vous écoutez France Culture.
Sur les docks. Il y a 11 ans, très exactement, Hugo Chavez était élu président du Venezuela. Et depuis, il ne cesse de faire parler le monde entier de son pays, lequel, deux fois grand comme la France, mais deux fois moins peuplé, faisait figure jusque-là de nain politique, même s'il disposait de ressources pétrolières considérables. Alliance étroite avec le castrisme cubain, dont il sauve la mise. Constitution avec 8 autres pays d'Amérique latine, d'une spectaculaire alliance bolivarienne. Démonstration bruyante d'amitié avec l'Iran ou la Biélorussie. Chavez double les dépenses militaires de son pays, chamboule le jeu des États-Unis dans le continent, prétend reconstituer dans le monde l'union des pays non alignés telle qu'elle existait dans les années 50 et jette le trouble jusque dans l'Hispanidad. Le roi d'Espagne lui enjoint de la fermer en vain. En Bolivie voisine, où le pouvoir de la paz est tenté de suivre son exemple, au moins le président Morales, qui remet son mandat en jeu ce 6 décembre, représente-t-il une nouvelle figure sociologique, l'Indien parvenu au sommet? Chavez, ex-militaire putschiste, relève lui de la vieille catégorie latino-américaine du caudillo, sauf qu'il garde une base populaire, certes érodée et parfois troublée, mais très forte et qui lui est reconnaissante d'avoir redistribué la manne pétrolière aux plus pauvres. Première étape d'une série de 4 et en forme d'abécédaire au Venezuela du Presidente avec Alexandre Hérault et Yvon Croisier.
Elles disent de lui, c'est un homme, un vrai, et se bouscule pour le voir, l'approcher, le toucher. Quand Hugo Chavez vient à la rencontre des femmes d'associations de gauche, des militantes d'organisations caritatives, de ses mères de famille des quartiers populaires, elle l'acclame comme si déjà il venait de remporter l'élection présidentielle.
Journal de 20h, France 2, décembre 1998.
Le 6 décembre, vous les enfants de Simon Bolivar, vous allez briser les chaînes de l'esclavage, ces chaînes qui entravent le Venezuela, et vous allez balayer ces politiciens pourris, toute cette pourriture.
Susana, ici, dans ce quartier populaire du 23 de Enero, sur les hauteurs de Caracas, vous nous recevez, vous êtes en train de peindre ce qu'on appelle un mural ici, une peinture murale, toute neuve. Et c'est une question simple, mais s'il y avait justement une seule lettre que vous auriez envie de choisir et qui correspondrait à un mot qui pourrait définir ce qu'est le chavisme aujourd'hui.
L'alegría.
Ah, como?
Ah, de alegría.
Ah, d'alegría. La joie.
Porque sentir que estamos juntos.
Sentir que nous sommes ensemble.
Y tantas.
Sentir qu'ils sont tous et toutes si nombreux dans notre pays, sur ce continent,
y en el mundo que simpatizan
et dans le monde à sympathiser avec notre leader et avec nous autres,
que se mobilizan contra las injusticias,
à se mobiliser contre les injustices,
las banderas,
à arborer les bannières que nous autres brandissons.
Eso nos da muchísima alegría.
Cela nous donne énormément de joie.
Notre abécédaire du chavisme commence donc logiquement par la lettre A. Le A d'Alegría. La joie, l'enthousiasme de toute une population pour accueillir son sauveur, Hugo, Rafael, Chavez, Frias, élu triomphalement à la présidence de la République le 6 décembre 1998.
Le pétrole qui fit la fortune du Venezuela fit surtout celle de quelques familles, 4% de la population qui détiennent 90% des richesses. La corruption érigée en système, un pouvoir que depuis 40 ans, depuis la fin de la dictature, se partage à tour de rôle politiciens de centre-droit puis d'autres de centre-gauche, la criminalité qui ne cesse de grimper. Dans ce pays où 8 personnes sur 10 vivent désormais sous le seuil de pauvreté, où les bidonvilles grossissent chaque jour de nouveaux arrivants, le discours volontiers populiste d'Hugo Chavez rencontre d'autant plus d'écho que beaucoup ont la certitude de n'avoir plus rien à perdre. Alors pour les fêtes, eux qui de l'or noir n'ont jamais vu la couleur, eux ont choisi de croire en un président, un ancien parachutiste descendu tout droit du ciel, la haute plaine de promesses, de partage et de justice sociale.
11 ans plus tard, alors qu'il a été déjà réélu 2 fois, qu'il a survécu à une tentative de coup d'État, qu'il n'espère rien d'autre que briguer un 4e mandat, le président Chavez est-il encore ce Père Noël de la révolution bolivarienne célébré par Oliver Stone, bientôt sur vos écrans, ou un simple despote dans la pure tradition sud-américaine? Tentative de réponse multiple, sous la forme ludique d'un abécédaire iconoclaste, le chavisme pour les nuls, première étape d'un voyage au pays de Chavez, Alexandre Hérault et Yvon Croisier.
President has become more dangerous to the U.S. than Fidel Castro ever was.
He's more dangerous than Bin Laden, and the effects of Chavez's war against America could eclipse those of 9/11.
Chavez is supporting terrorism on a daily basis. He's given Al-Qaeda and Hamas an open invitation to come to Caracas.
Who is Hugo Chavez?
Quizá esa es una de las razones de la actividad que uno lleva, el optimismo, la fe, la esperanza y las evidencias concretas de que sí es posible cambiar el mundo, cambiar la historia. Es posible, Oliver.
Andrés, 23 ans, étudiant en journalisme.
Pour moi, l'amour, c'est des cambios, des changements. Si vraiment, ici au Venezuela, on peut parler de quelque chose de différent, c'est de le changement qui aperçoit tous les Vénézuéliens après 10 ans, l'arrivée de Chavez.
C'est comme changement, quel changement?
Le changement, c'est dans les gens. Je crois que s'il y a un changement, c'est dans l'attitude des gens à ce moment à Venezuela. Venezuela s'est réveillé.
Chavez, c'est qui, c'est quoi pour toi, Andrés?
Chavez, pour moi, c'est un produit historique de toutes les expériences, des mouvements populaires, des mouvements syndicaux, étudiantils, et des changements progressifs à Venezuela. Que ça veut dire les paysans, ça veut dire les ouvriers, ça veut dire le peuple llano, comme on dit ici, le peuple llano. Et tout ça, ça rencontre dans une figure que c'est un leader, c'est un personnage vraiment exceptionnel, tous les points de vue, avec odios y amores.
Avec la haine et l'amour.
La haine et l'amour que produit sa figure. Mais qui vraiment vous parle d'une identité, de ce que de le Vénézuélien dans une seule personne.
Chavez vous ressemble, Andrés? Ou vous ressemblez à Chavez?
Oh, Chavez ressemble tout le temps. Chavez, à qui ne ressemble pas, non? Chavez est paysan, il est militaire, il est aussi un baseballista qui joue au baseball, et il est aussi Mr. Venezuela, et il déclame Bolivar. Il y a des fois qu'il est Bolivar, il y a des fois qu'il est militaire, il y a des fois qu'il est un paysan.
Jésus Christ aussi, Jésus Christ.
Oui, il parle comme Jésus Christ. Il parle aussi de Jésus Christ. Il chante aussi. Il déclame de la poésie. Et tout à fait. Il est un père. Il est la mère aussi. Et sa peau. C'est comme celui-là de Vénézuélien. C'est
une
peau métisse. Sa bouche, ça ressemble à celui-là de la métissage afro-africano.
Du métissage africain, évidemment.
Il a son visage à l'indienne. C'est l'esprit de celui d'un paysan. Et c'est vraiment ça que ça ressemble dans son personnage pictorique vénézuélien, avec des cheveux comme celui-là des Africains, on dit ici pelo al hambre, et ça ressemble à un prototype, un phénotype vénézuélien. En tout cas, le 80% de Venezuela se reconnaître dans ce personnage. Tu sais, il n'est pas bon. Ce n'est pas un président beau. C'est un président qui rapporte de lui-même tous les phénotypes et les génotypes de l'idiosyncrasie.
L'idiosyncrasie.
L'idiosyncrasie, excuse-moi.
Non, non.
De Vénézuélien, tu sais. C'est très vivo, on dit. Il est très réveillé, tu sais. Il a lu beaucoup. Il était en prison. Il a fait un coup d'État. Il a les élections. Il est un estadista. Il parle avec Fidel. Vraiment, on disfrute, non? C'est amusant. Peut-être écouter Chavez disant à Bush que c'est le diable. L'odeur de soufre.
L'odeur
de soufre. Certains moments que tu dis, oh, Chavez, il l'a fait encore une fois. Non, mais c'est important.
Juan Contreras, membre de la coordination Simón Bolívar du quartier 23 de Enero, la lettre S pour Sueño, un rêve.
Sí, yo creo que Chávez forma en este momento.
Oui, je crois que Chavez fait partie de ce rêve en ce moment. Ce rêve que nous avons nourri dès notre adolescence, ce romantisme révolutionnaire incarné en chair et en os par Che Guevara. Je crois en effet que Chavez représente une partie de ce rêve que tous les révolutionnaires latino-américains ont pu avoir. Il fait partie du processus de dignification de notre peuple.
Est-ce qu'il s'agit d'une idéologie qui a encore des fondements véritablement inscrits ou tout est en mouvement en ce moment et tout se cherche?
Mira, bueno, hablan del chavismo por la figura de Chávez.
Pour parler du chavisme en évoquant la figure de Chavez, il faut en effet dire qu'il y a toute une partie de ce peuple irrévérencieux qui construit ce chemin en se sentant chaviste, qui s'identifie au président Chavez. Je crois que cette théorisation du chavisme a commencé à partir du moment où le président s'est mis à parler du socialisme du 21e siècle. Cela voulait dire qu'il y avait une recherche. En paraphrasant le manifeste du Parti communiste, le chavisme s'est un peu devenu ce fantôme qui parcourt l'Amérique latine. En tant que tel, ce n'est pas un courant de pensée idéologique qui serait une contribution au marxisme ou à d'autres théories. Chavez s'appuie sur des concepts marxistes, même si l'idée de lutte de classe reste en marge. Il y a un marquage référentiel provenant du marxisme, mais aussi de l'idéologie bolivarienne, ce que fut notre lutte pour l'indépendance.
La corriente ideológica que él está tratando de implementar en este momento, podríamos decir.
Dans ces idées qu'il tente de mettre en place dans le pays aujourd'hui, on trouve donc une combinaison de nationalisme et d'idéologie marxiste.
En todo caso, Chávez se ha convertido en un referente tanto en Venezuela como en la América Latina.
En tout cas, Chavez est devenu un référent en Amérique latine et à travers le monde. Et grâce à son irrévérence, à tous ces sommets internationaux où il s'exprime haut et fort, le Venezuela s'est fait connaître aux yeux du monde, a exposé devant les autres présidents sa souveraineté et son indépendance, et est devenu un modèle pour les pays en lutte. La figure de Chavez est celle qui concentre tout ce rêve, ce chemin et les espoirs de cette Amérique rebelle. Et je crois que c'est cela que l'on appelle à chaque fois le chavisme. Ce sont des gens parmi le peuple qui espèrent et qui croient en la conduite et au principe d'une personne, une personne qui est un modèle pour ouvrir le chemin qui nous permettra d'en terminer avec ce monde unipolaire pour construire un monde multipolaire.
José Guerra Macondo, maire de Rio Caribe, petite ville du Nord-Ouest.
Me pone a pensar.
Tu me fais réfléchir.
Tiene que ser con una sola palabra.
Un seul mot, ça doit être un seul mot.
Difficile.
Dignidad.
Dignité.
Dignidad.
Dignité.
El ser uno mismo.
Être soi-même.
El tener valores propios que compartir con quien...
Avoir des valeurs propres à partager.
Con quien venga.
Avec n'importe qui.
El caminar con pie propio.
Marcher avec ses propres pieds.
El no depender, el ser libre.
Et ne dépendre de personne pour être libre.
Tiene que ver con eso.
C'est ça.
Dentro del chavismo, yo creo que
le chavisme.
Destacaría que
moi, je mettrais en valeur que c'est un projet de dignification des gens, pour dignifier les gens, pour faire un peuple digne.
Que rompe las cadenas, buril solar, la fe que enciende las hogueras, clamor fundamental, la voz de la justicia. Que nunca morirá.
Teodoro Petkov, il y aurait tant de choses à dire sur votre biographie que je préfère vous laisser choisir les événements saillants de votre vie. Par exemple, nous parlons là au directeur du journal Tal Cual. C'est comme ça que vous voulez qu'on vous présente, non pas comme l'ancien guérillero, celui qui a connu même le Che, non pas comme celui qui s'est battu ici au premier temps de la dictature, celui qui s'est présenté deux fois à la candidature de la République. Être directeur de ce quotidien, ça vous suffit ?
Oui, ça va.
On oublie le passé.
Je suis le directeur de Tal Cual.
J'ai oublié de dire que vous avez été ministre aussi.
Ah oui, c'est vrai. Alors j'étais aussi ministre.
Sous le gouvernement de Caldera, on était au milieu des années 90. Je pourrais dire que certains, ici, dans l'entourage chaviste, vous considèrent comme un traître, puisque d'homme de gauche, vous êtes devenu libéral.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis un homme de gauche. Et parce que je suis un homme de gauche, je suis contre Chavez.
Alors qui est Hugo Chavez ? C'est une question que je pose à celui qui a écrit une biographie d'Hugo Chavez, qui... intelligemment, s'appelle Hugo Chavez Tal Cual.
Il se présente comme un homme de gauche. Alors je ne veux pas discuter ça. Il y a une gauche autoritaire, il y a même une gauche dictatorielle, il y a une gauche totalitaire. Alors je ne suis pas de cette gauche. Je me suis divorcé de Staline, mais pas pour me marier avec Chavez. Et c'est la raison pour laquelle je suis contre Chavez. Et je suis contre lui avant qu'il était président.
Qu'est-ce que vous aviez pressenti ? Qu'est-ce que vous aviez vu en lui ?
Bon, je connaissais personnellement Chavez. Je savais qu'il n'avait pas un autre programme à cette époque que l'éviction de l'élite. Un discours contre la corruption en général. C'est le discours de tous les sauveurs de la patrie. Et... sur la vie de la nation, sur l'économie, sur la société, il n'y avait rien. Je me disais à moi, je ne sais pas, comme García Márquez, je me demandais, ce sera vraiment un révolutionnaire, un homme qui va changer notre pays, ou sera un autre militaire despotique, comme tous les militaires dans notre continent. Bon.
Est-ce qu'au bout de ces 10 ans, Teodoro Petkov, on est en mesure de dresser ce qu'on appelle en termes journalistiques un bilan de son action au gouvernement ?
Il y a une seule chose qu'on peut rescater de son gouvernement. Et c'est une chose importante. Il a fait de la pauvreté les grands issues vénézuéliens. C'est vrai. On ne peut pas méconnaître ça. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde dans, dans mon pays, toutes les élites sont convaincues que si notre pays ne résout pas la question de la pauvreté, ça sera une société au long terme ingouvernable. C'est notre problème. Et c'est vrai, qui a fait de ces problèmes les problèmes, c'est Chavez. Je crois que c'est important. Mais, desgraciadamente, malheureusement, il n'a su pas quoi faire avec la pauvreté. Alors, il a mis en œuvre des programmes sociaux. Il n'a inventé pas les programmes sociaux. Nous avons eu des programmes sociaux, toujours dans des autres gouvernements, mais avec la différence qu'il y avait aussi de fric, oui. comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de fric. Alors, les programmes sociaux sont vraiment très corrompus, il y a beaucoup de gaspillage, il y a des discriminations politiques, c'est vrai, mais il y a beaucoup de fric. Alors, dans la pauvreté en général, beaucoup de gens ont touché son billet.
Pour la première fois, on redistribuait l'argent de ces 30 pétrolières.
Non, pas pour la première fois. Je vous ai dit que nous avons eu des programmes sociaux toujours dans des autres gouvernements. La différence était dans la magnitude du fric. Alors, avec toute la corruption, avec tout le gaspillage, avec toute la discrimination, beaucoup de fric a arrivé à certains secteurs les plus pauvres de la population. Et c'est vrai, il y a une amélioration de son revenu. Il y a eu une amélioration de l'alimentation. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut dire, je ne crois pas aux chiffres du gouvernement, parce que ce sont tout truqués, mais c'est vrai que la pauvreté critique a diminué. Il y a une vraie amélioration. Parce qu'après 6 ans d'une inondation de pétrodollars, alors les pires des gouvernements du monde peuvent faire quelque chose.
Colette Capril, professeure de sciences humaines à l'université Simon Bolivar.
Un mot, ah bon. Un seul mot. Hein? Le césarisme.
C'est comme césarisme.
C'est comme césarisme, oui. Parce que pour moi, la seule théorie politique autochtone que nous avons eue en Amérique latine, c'est la thèse de Laureano Vallenilla Lanz, le césarismo democrático, le césarisme démocratique, qui a été, c'est un livre publié dans les années 30, et que beaucoup ont interprété comme une apologie de la dictature de Juan Vicente Gómez. Il parlait de gendarmes nécessaires. Pour moi, Chavez se connecte, est connecté, disons, avec cet archétype du gendarme nécessaire, de l'homme providentiel qui peut mettre l'ordre et le bonheur du peuple. Un peuple qui est toujours handicapé, qui est toujours inutile, qui ne sait que faire avec son destin, qu'il faut guider avec une main paternelle et en même temps autoritaire, incarné dans la figure du César. Il y a une aspiration d'ordre presque théologique dans laquelle le César incarne la volonté populaire. C'est pour ça qu'il c'est un César démocratique, hein, parce que le peuple existe à travers lui, par lui. La démocratie ainsi comprise, ainsi entendue, est fondamentale pour comprendre la force que peut avoir, disons, Chavez. Hein. Il croit vraiment à son destin, disons, historique,
d'incarnation de ce peuple. Parce que il a une grande habileté aussi à n'être qu'un fantasme, qu'une projection. Donc parfois, il est vraiment difficile de donner un jugement sur qui il est. Mais je veux dire, je pense que Chavez est surtout un phénomène d'ordre culturel et non pas politique. Oui. Donc il y a toujours cette contradiction culturelle entre, disons, le passé et un futur d'illusion qui n'arrive jamais, qui est toujours là, figé dans un imaginaire d'opulence pétrolière, et qui a toujours été, pour moi, le véhicule aussi des autoritarismes que nous avons vécus pendant le XXe siècle. Le pétrole est à la fois l'instrument de la démocratie et l'instrument aussi de la dictature. En fait, l'exploitation du pétrole, c'est quelque chose de très simple. On l'extrait, on l'envoie dehors, c'est tout. Mais en même temps, ça change absolument toutes les relations entre la société et l'État. Et ça envahit, cette relation envahit absolument tous les interstices de la société. Qui domine le pétrole domine le pays. Il y a une expression de Juan Pablo Pérez Alfonso. Il a été un des ingénieurs, des planificateurs et des inventeurs de la politique de nationalisation du pétrole et de la création de l'OPEP. Il parlait, utilisant une expression indigène, de l'excrément du diable. Et c'est très graphique parce que nous vivons vraiment sur un océan d'excréments du diable et nous vivons de l'excrément du diable. Donc, parce que c'est la richesse facile, c'est vraiment, enfin, l'industrie pétrolière fonctionne avec 50 000 personnes et fait vivre 27 millions. Donc, tout est suspect. Le pétrole contamine. Ce n'est pas seulement les grandes plaques de pétrole sur l'océan, c'est aussi les grandes plaques de pétrole sur la culture et sur les gens. Non ?
Emilio Graterón, maire de Chacao, l'arrondissement UP de Caracas.
La verdad es que escogería dos. Una, la O del odio.
Bon, en fait, moi, je choisirais deux. La première, ça serait la O de odio, la haine.
Odio a las clases sociales, odio a la empresa privada, odio al dinero, odio al progreso personal, individual.
La haine pour les classes sociales, la haine pour le progrès, la haine pour l'argent et la haine pour le progrès économique, personnel et individuel.
Et la autre serait la E de exclusion.
Et l'autre lettre, ça serait le E de exclusion.
El gobierno sabe excluir a todo el que odia.
Le gouvernement sait comment exclure à ceux qu'il déteste et il le fait jusqu'au point de ne pas reconnaître ses droits humains les plus fondamentaux.
Y hay otro signo, ¿no? Que no está en el abecedario, pero que.
Et il y a un autre signe qui n'est pas dans l'abécédaire, mais c'est un signe fondamental, c'est les dollars.
No es una letra, pero es lo que ha permitido construir.
C'est pas une lettre, mais c'est un élément qui sur lequel il a construit sa popularité internationalement et nationalement.
Y ese signo de dólares esconde.
Et ce signe de dollars cache la O pour odio, la haine et la E d'exclusion qu'on vit dans notre pays.
Venezuela,
Teodoro Petkov,
ressemble beaucoup plus à la Nigérie, à l'Arabie saoudite, à l'Indonésie, à l'Algérie, qu'à l'Amérique latine. Parce que nous sommes ce que dans la moderne littérature économique s'appelle pétro-État. Nous sommes une pétro-société, avons un pétro-État et avons une pétro-culture. Ici, tout passe à travers l'État. Tous les revenus, l'income, le revenu passe à travers l'État. C'est l'État le grand distributeur. Tous les business dans notre pays se fait à travers l'État. Nous avons une bourgeoisie qui n'est pas une classe dominante. La bourgeoisie vénézuélienne est une classe qui dépend de l'État. Aujourd'hui et auparavant. Toujours. Bon, ça n'a pas changé. Parce qu'il y a eu une politique économique, une réelle politique économique du développement des forces productives de la société vénézuélienne. Alors, il n'a pas changé les relations, pour parler en marxiste, il n'a pas changé les relations de production. C'est un pays capitaliste. C'est vrai, il a étatisé certains secteurs de l'économie, mais c'est un pays accoutumé aux étatisations, parce que nous avons eu toujours un grand et très, très, très fort capitalisme d'État. Alors, la question n'est pas idéologique. Ici, on ne peut pas parler de socialisme. Le socialisme existe ici dans les discours de Chavez.
Alors c'est quoi,
il n'y a pas de socialisme. C'est un pays capitaliste. C'est Chavez qui dit que c'est un pays socialiste. Mais ce n'est pas un pays socialiste.
Que peut-être ça deviendra un pays socialiste. Hein? Le socialisme du 21e siècle. Nous sommes dans une projection sur le futur, Théodore Petkov.
Mais je voudrais voir un pas en avant. Mais je vais seulement, et c'est très important ce que je veux dire, il y a une chose qu'on pouvait définir comme socialiste. Si l'Union soviétique était socialiste, ou si Cuba est un pays socialiste, c'est la tentation d'affirmer l'autoritarisme, l'autocratisme, parce que c'est un gouvernement autocratique, il n'y a pas séparation de pouvoir, tout le pouvoir est concentré dans les points de Chavez. Si le socialisme c'est le militarisme, alors c'est socialisme. Mais il y a une autre chose, c'est la pulsion permanente, la vocation totalitaire du gouvernement. Parce que le gouvernement contrôle aujourd'hui tous les pouvoirs publics. Il ne contrôle pas la société. Je ne dirais pas que c'est un pays totalitaire. Ce n'est pas un pays totalitaire. Mais il y a un projet totalitaire. Un projet d'étatisation de la vie sportive, culturelle, de l'utilisation de l'éducation comme un instrument de la idéologisation de la population, la création d'une hégémonie médiatique. Ce n'est pas certainement le modèle cubain. C'est un, disons, je l'appelle le néo-totalitarisme. Si vous voulez, un totalitarisme light.
Gisela Kozak, écrivain.
A de autoritarisme.
A d'autoritarisme.
Porque un líder que tiene el poder económico,
parce qu'un leader qui a le pouvoir économique, militar, politique, militaire,
en detrimento del empoderamiento de
au détriment du pouvoir de la société dans son ensemble, est un leader autoritaire qui crée une société qui vit dans la violence et dans l'affrontement permanent.
Tout de suite après ce A d'autoritarisme, viendrait alors le M de militarisme.
Sin duda alguna.
Sans aucun doute.
Las palabras que son utilizadas,
les mots qui sont employés dans l'organisation du Parti socialiste,
patrullas,
patrouille,
batallones,
bataillons,
al enemigo hay que pulverizarlo,
il faut pulvériser l'ennemi,
la
guerre contre l'Empire, un président de la République portant l'uniforme militaire et des militaires actifs et retraités au poste de ministre, de gouverneur et d'autres postes clés de l'administration publique, et la confusion entre le statut des militants du Parti socialiste uni du Venezuela et celui des miliciens des forces armées. Je pense que dans certains aspects, il y a sans aucun doute de l'influence cubaine. Il y a beaucoup d'admiration pour le processus cubain, en particulier à cause de la permanence de Fidel Castro au pouvoir. Mais il y a des différences importantes. Encore aujourd'hui, des grands secteurs du pays, même à l'intérieur du chavisme, croient en la pluralité et en la démocratie. Et nous ne venons pas d'une dictature comme celle de Batista à Cuba. À la différence de Cuba, en 1998, nous ne venions pas d'une dictature, mais d'une démocratie, avec beaucoup de défauts, mais une démocratie. Par conséquent, il y a des différences très importantes. Et je pense qu'il y a des influences cubaines et de la sympathie pour la révolution cubaine. Mais nous sommes très différents, n'est-ce pas?
Natalia Brandler, professeure de sciences politiques à l'Université Simon Bolivar.
Je me débat sur l'ABCDA parce que j'avais commencé pour
penser la I comme illusion, à M comme mensonge, à F comme fraude. Mais je voudrais parler plutôt d'une lettre qui a à faire avec la situation politique. Mais je me débat aussi. Je ne sais pas si c'est S comme Staline, T comme totalitaire, A comme autocrate, F comme fasciste, ou C comme castrisme. Et c'est tout en même temps. Tous les pouvoirs sont contrôlés par Chavez. Donc, il n'y a pas d'indépendance de pouvoir au Venezuela. Donc, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de liberté. Parce qu'on ne peut pas attendre qu'il y aura une défense impartielle.
Pas de liberté, Natalia Brandler. Pourtant, vous êtes à ce micro et
j'adore
vous parlez.
J'adore cette question. C'est une très bonne question. Et ça me permet de vous dire que Chavez est en train d'installer un système hégémonique. Ça veut dire que quand il y a une hégémonie, il faut avoir quand même une opposition. Il faut faire semblant qu'il y a la démocratie, qu'il y a le pluralisme. Moi, je ne fais du mal à personne. Qui va m'entendre? Des Français à l'étranger, des personnes qui parlent français. Je ne suis pas une menace pour lui. En fait, c'est au contraire. C'est très bien pour lui. Il peut montrer qu'il y a pluralité, qu'il y a de liberté. Il y a même cette femme qui dit... cette professeure de l'université, Simon Bolivar, qui dit que moi je suis un fasciste, un autocrate, un narcissiste, je pourrais continuer, un histrionique, un paranoïque, je pourrais dire tous ces mots. Et ça ne lui fait rien du tout, parce qu'il en a besoin de ça. Il a besoin d'avoir, pour le monde, une face démocratique.
Vladimir Villegas, vous êtes bien connu pour avoir justement au sein du mouvement chaviste commencé à prendre un peu vos distances. Il y a eu des déclarations de vous sur au moment où il a été question de ne pas accorder le renouvellement des licences à 34 radios, qui est devenue effective, donc cette menace d'hégémonie médiatique par le gouvernement. Vous avez pris vos distances, vous avez critiqué. Il y a eu aussi un moment au niveau du référendum sur un amendement constitutionnel qui permet au président de la République, mais aussi à tous les élus, de postuler autant qu'ils le veulent à un mandat. C'était en février 2009. Vous vous avez dit que la discussion sur la pertinence, je vous cite, ou non, de la réélection va au-delà du fait que ce soit le désir d'une majorité. Un système politique dans lequel un homme est indispensable indéfiniment porte dans ses fondements le virus de la faiblesse.
Mm-hmm. Ciertamente. Eso lo dije y lo sostengo porque primero creaba una situación de desigualdad entre los venezolanos.
Et oui, certainement, et je le dis, je l'ai dit et je le dis toujours parce que ça crée une situation de inégalité entre les Vénézuéliens.
Y por otra parte, revelaba la
et ça révélait aussi une grande faiblesse d'un processus qui était incarné dans un seul homme.
Uno de los factores que le ha hecho daño a este proceso ha sido
et je crois que l'un des faiblesses de ce processus, c'est la inconditionnalité des hommes qui entourent le président.
Y por supuesto, de eso está rodeado
et bien sûr, le président est entouré que de ça.
Entre autres choses,
parce que c'est lui qui l'a voulu comme ça.
Creo que el presidente,
je crois que le président, même s'il y a une bonne volonté et de bons désirs, il souffrirait de ce que Lénine appelait la maladie infantile de la gauche et ce que j'appelle maintenant la maladie infantile du messianisme.
On construit, Vladimir Villegas, c'est presque un jeu, un puzzle,
à l'intention de ceux qui n'y connaissent rien, tout ce que vous auriez toujours voulu savoir sur la Révolution sans jamais oser le demander, un abécédaire du chavisme. Quelle lettre vous conviendrait le mieux ? C comme culte de la personnalité ou M comme messianisme ?
Je dirais que ambas lettres sont nécessaires parce que.
Moi, je dirais que les deux lettres sont nécessaires parce que, effectivement, on rend un culte à sa personnalité et le président Chavez a des traits du messianisme. Alors, je dirais qu'on rassemble la faim avec l'envie de manger.
Vladimir Villegas, vous faites parfois des cauchemars ?
Non, más que pesadillas, tengo inquietudes. Et
plus que cauchemar, moi j'ai des inquiétudes parce que moi j'ai toujours lutté pour le socialisme.
Viví un año en la Unión
Soviética. J'ai vécu un an à l'Union soviétique.
Fui miembro del Partido Comunista.
Et j'étais membre du Parti communiste.
Fui profundamente pro-soviético.
J'étais profondément pro-soviétique.
Y luego me di cuenta de que ese modelo.
Et après, je me suis rendu compte que ce modèle était une caricature de terreur de ce que le socialisme devrait être.
Hay un libro que retrata muy bien.
Il y a un livre qui reflète tout ça, qui montre tout ça, qui s'appelle Rébellion dans la ferme.
Et
je crois que ce livre devrait être lu pour les hauts fonctionnaires du gouvernement. Que maintenant, ils ne veulent pas voir beaucoup de réalités qu'on vit ici au Venezuela. Je crois qu'on est encore au temps de rectifier quelques chemins
et de promouvoir une idée socialiste.
Et de promouvoir une idée socialiste qui était liée à la diversité.
Que incluya sin excluir.
Qui soit capable d'inclure sans exclure.
Et que haga de la critique un hábito diario.
Et faire de la critique une coutume de tous les jours.
Cada estudiante preso.
Chaque étudiant qui a été mis en prison, comme on a vu dans le dernier cas.
De abuso.
Chaque action d'abus qui se commet au nom de la révolution.
Un día de vida pues a este proceso le resta la posibilidad de que este proceso pueda.
Ça enlève un jour de vie à ce processus révolutionnaire et l'éloigne d'être un rêve.
Una revolución que necesite la represión.
Une révolution qui a besoin de la répression.
Es una revolución herida de muerte.
Es una revolución blessée à mort.
Leopoldo López, principal leader de l'opposition.
Écoute, je pense qu'il y a 10 ans, il y avait une vraie vocation de changement au Venezuela,
de
changement social, politique et d'inclusion. Mais aujourd'hui, le gouvernement, l'officialisme, représente un État qui veut tout contrôler. Il est prêt à avancer par des mécanismes de répression qui annulent, qui nient ceux qui pensent différemment. Aujourd'hui, au Venezuela, il y a 50 prisonniers politiques, des gens qui ont manifesté des opinions contraires à celles du gouvernement. Il y a au moins 150 exilés par des raisons politiques, tous pour avoir exprimé publiquement une opinion différente à celle du gouvernement. Donc le gouvernement, il est prêt à franchir la ligne du respect des droits de l'homme. Il est prêt à franchir la ligne de respect de la démocratie. Et ça se voit clairement lorsqu'on voit avec qui il s'allie au niveau international. Donc il est à côté de Kadhafi, à côté du président de l'Iran. Il exprime ça par des questions de solidarité, il justifie ça par la solidarité. Mais c'est qu'au fond, il est d'accord avec ceux qui ne gouvernent pas par la voie démocratique. Donc c'est les modèles vénézuéliens, c'est celui qui célèbre Cuba, qui célèbre le modèle de Loukachenko, et les gouvernements parlent positivement du dictateur Mugabe. et justifie donc de cette manière les assassinats par des raisons politiques. Ce sont ses alliances.
Est-ce que cette lettre-là de M, comme miedo, comme peur, est-ce que celle-ci se distille aussi dans vos veines, comme j'ai pu le sentir chez certains de mes interlocuteurs qui refusaient d'ailleurs de parler à ce micro?
Sí, lo hay, claro que lo hay. Te doy un ejemplo. Esta mañana teníamos una presentación a la prensa, a la opinión pública, por el problema de la educación.
Et bien sûr qu'il y a la peur. Ce matin,
un estudiante,
nous avions une présentation, une conférence de presse sur les problèmes de l'éducation. Et il y avait un étudiant qui allait parler, un jeune, et il m'a appelé le matin. Il m'a dit, je ne peux pas parler aujourd'hui, parce qu'il a eu une réunion avec sa famille, son papa travaille dans une entreprise de l'État qui vient d'être nationalisé, étatisé, dans l'ère des télécommunications, et sa famille lui a demandé de ne pas parler parce qu'ils ont peur. Bien sûr. Et on comprend ça. On comprend qu'il y a peur. Si on assume la responsabilité de diriger, d'être à la tête de ces mouvements, on doit être conscient que la question, c'est comment vaincre le désespoir. Et le désespoir est conséquence de la peur. Le désespoir nous enlève la volonté, l'envie de changer, l'adrénaline, l'irrévérence. Et la possibilité de nous joindre à un effort collectif de changement. C'est pour ça qu'on sort tous les jours dans la rue pour construire, pour bâtir l'espoir. Nous sommes des architectes, des bâtisseurs de l'espoir.
Et ce M, comme miedo, peur, est-ce qu'il peut justement amener à ce P de peligro, cette menace? Ce danger d'une confrontation violente prochainement.
Oui, il y a eu des manifestations de violence extrême. Moi-même, j'ai été victime de 3 tentatives d'homicide et un collègue de travail est mort dans mes bras. Et la quantité de Vénézuéliens blessés par des raisons politiques est énorme. Donc, la violence de la rue, elle est déjà là. Et elle est dans une intensité qui peut-être elle passe inaperçue. Elle peut en effet devenir un problème massif du conflit politique. Moi, j'espère pas, mais je ne l'écarte pas non plus.
Dans cette tentative que l'on est en train de faire de construire un abécédaire, un abécédario del chavismo, Teodoro Petkov, vous choisiriez quelle lettre?
Hugo Chavez et le chavisme, c'est un phénomène très complexe. Je ne peux pas le définir avec une seule lettre. Ce n'est pas possible pour moi, parce que c'est très complexe. Vous trouvez beaucoup de choses. Vous trouvez des idées d'une certaine gauche, c'est vrai, mais il y a des comportements qui sont beaucoup plus fascistes que de gauche. Il y a toute cette culte à la tradition, à la mort, à la violence, la satanisation des opposants. Tout ça, c'est beaucoup plus de Mussolini que de la gauche. Alors, c'est très difficile de définir cet phénomène complexe, vraiment complexe.
I, comme illusion ?
À un certain moment, on pouvait dire ça, c'est vrai. Aujourd'hui, encore, on peut dire que les liens émotionnels, affectifs entre une partie de la population et lui est vif. Encore. Mais l'illusion que Chavez pouvait incarner un changement de la vie, je crois que c'est passé.
Alors, pour vous, Teodoro Petkov, D comme désespoir?
Pour moi? Oh! Oh! Absolument! Désespoir et désespération? Si. Non, pas encore. Non, pour moi, c'est pas. Parce que ma situation est un peu particulière, parce que au commencement, 10 ans auparavant, Je disais à mes amis, à tout le peuple, ce n'est pas une course de 100 mètres plein. C'est un marathon. Et pas un marathon de 40 km. C'est un marathon de 100 km avec des obstacles. Alors, on doit se préparer pour une longue traversée du désert. Pour moi, ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas soutenable. Je ne vois Chavez 20 années au pouvoir comme 50 ans comme Fidel. Non, ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas soutenable. Il y a une désillusion qui progresse dans le peuple. Aujourd'hui, la corrélation électorale est 50-50 dans notre pays. Et les lignes vont se croiser.
Alors, j'ai comme guerre civile.
Seulement si la force armée s'est divisée. Mais j'espère qu'on pourra manager la situation dans le sens d'une solution démocratique. Pour moi, c'est très important. Je suis absolument contre toute solution non démocratique. Et golpiste, beaucoup moins.
Alors, comme urne.
Urne, oui, peut-être. Pour moi, oui. Ah, je crois à ça, je crois à ça. Parce que c'est vrai qu'il y a une contre-figure dans l'opposition, mais il y a une population, et la contre-figure apparaîtra. Dans tout le peuple du monde, c'est passé. Alors, pourquoi pas pour nous? Ça y est.
Jimmy Caprile, entrepreneur de la péninsule de Paria.
La F, le foul.
Le F, de foul, de faute en baseball.
O de falso, o de no valido.
De faux.
Foul, en
pas valide. Hein,
como lo quieren llamar en F, foul.
C'est le terme en anglais.
Une offre qui nunca llegó. Un batazo que no
c'est une offre
un batazo que no llegó a ningún
qui n'est jamais arrivée. Un coup de batte raté. En ayant toutes les possibilités.
No, no lo
moi, j'ai voté pour Chavez trois fois.
Okay. Et je suis la
trois fois. Et je suis le premier déçu.
C'est la vérité que je peux dire. Un foul total, un fracasso total.
C'est la vérité. Qu'est-ce que je peux dire? Une faute, un échec total.
Un fracasso total.
Un échec total.
Christian, hôtelier à Rio Caribe.
La lettre la T. De tristesse.
Pour moi, c'est la T, T de tristesse.
La cara del venezolano se nota la tristesse.
Sur les visages des Vénézuéliens, on voit la tristesse. Et cela, c'est à cause du processus révolutionnaire.
Para mí es tristeza.
Pour moi, c'est de la tristesse.
La verdad que sí.
Vraiment.
Se dice que Venezuela, el venezolano es una persona feliz.
On dit toujours que les Vénézuéliens, nous sommes des gens heureux.
Nota la tristeza, la preocupación, y eso es lo que yo veo.
Mais lorsque tu sors dans la rue, tu vois la tristesse dans les visages des gens.
Vous savez qu'on a commencé cet abécédaire avec la lettre A comme allegria, joie.
Wow. Alegría para pocos.
De la joie pour peu, tristesse pour beaucoup. C'est de la joie pour tous ceux qui en profitent. Mais moi, je ne vois aucun fruit, aucune amélioration. Si les pays marchaient, moi aussi, je serais joyeux. Mais en plein 21e siècle, le pays va de pire en pire.
C'était le chavisme pour les nuls. Première étape d'un voyage au pays de Chavez. Traduction Andréina Flores, Paula Vasquez et Gaël Pouillot, avec les voix de Maïlis Bessery, Eve Etienne et Yvonne Garcia. Attachée de production Christine Gage, Lorraine Plancher. Sur les docks, Alexandre Hérault, Yvon Croisier.
Lundi 30 novembre, c'était le premier épisode d'une série de quatre consacrée cette semaine dans Sur les Docks au Venezuela de Chavez. Vous pouvez commenter, réécouter. Notre site est accessible via celui de France Culture. Demain, l'histoire d'une passionnariat qui excède les recommandations de Chavez.